Bonjour à tous et bienvenue sur Graphite 94.9 à Compiègne. Vous écoutez l'émission Les Échos de l'innovation, initiée par le professeur Clément Mabi au sein de l'Université de technologie de Compiègne et responsable du cours SI1, qui est donc Sciences et débat public. C'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux débats et aux avancées technologiques et scientifiques qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer pour un voyage extraordinaire vers les étoiles avec un thème passionnant, la conquête spatiale.
Préparez-vous à explorer une sphère de l'univers, à découvrir les dernières innovations spatiales et à découvrir de nouvelles aventures. Que vous soyez un passionné d'astronomie ou simplement curieux de savoir ce qui se cache au-delà de notre atmosphère, cette émission est faite pour vous.
Alors restez avec nous, car dans un premier temps, c'est à vous que nous allons nous adresser. Nous allons parler des défis techniques, éthiques, des découvertes surprenantes, mais aussi et surtout un tas d'autres choses qui vont vous mettre des étoiles plein les yeux. Alors attachez vos ceintures et laissez-vous guider par les échos de l'innovation. Sur Graphite 94.9, je suis votre commandante Sarah Alata, étudiante à l'Université de technologie de Compiègne.
Je suis Coralie Bauer, également étudiante à l'Université de technologie de Compiègne.
Et moi, Lise Ferré, en première année à l'ITC.
Vous allez voir, notre émission se composera d'interviews, de quiz, ce sera assez passionnant, on fera un petit tour sur des questions que tout le monde se pose.
Ça tombe bien, pour commencer, je vous ai concocté quelques questions, donc okay. Le but c'est de répondre un peu le plus vite possible, par oui ou par non, ou par ce que vous voulez.
D'accord.
Et d'en discuter juste après.
Parfait.
Participez-vous à des clubs ou associations liées à l'espace ?
Oui, Orion.
Non, pour ma part.
Seriez-vous intéressé pour devenir astronaute ou travailler dans le spatial ?
Non.
Oui, mais pas de la manière dont on connaît aujourd'hui.
Suivez-vous de près les actualités et lancements spatiaux ?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment.
Pour vous, faudrait-il envoyer plus d'humains dans l'espace ?
Oui.
Ouais.
Et pourquoi l'envoi d'humains dans l'espace vous semble-t-il essentiel ? Si oui.
Parce que ça peut aider à mieux comprendre l'espace, à apporter des choses dans la recherche, etc. Et je pense qu'on verra différemment les choses si c'est des humains qui vont à l'espace que des machines.
Exactement, ça apporterait en fait, ça éclaircirait beaucoup de choses sur les questions qu'on se pose aujourd'hui, sur que ce soit la vie dans l'espace, sur Mars, sur la Lune. Et même ça, je pense, c'est le début d'avancées majeures dans ce domaine.
Oui, je suis d'accord avec vous. Et du coup, pour vous, est-ce que la conquête spatiale, ce serait une priorité pour le moment ?
Alors non, pas vraiment. C'est intéressant, certes, mais on a quand même des choses qui sont plus importantes à gérer. Par exemple, le médical, même l'écologie, c'est quand même ça qui me paraît essentiel actuellement et pas la conquête spatiale.
Alors, je rejoins Lise, en effet, prioritairement, non, même si ça reste très, très important et très, très intéressant de le faire. Mais en priorité, je crois pas, non.
Et puis, je pense qu'il faut vraiment dissocier conquête et exploration spatiale.
Exactement.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment pas pareil. Je vous rejoins totalement sur la conquête spatiale. Tandis que l'exploration spatiale, je pense que c'est quand même un domaine qui est prometteur et assez important d'explorer aujourd'hui. Parce qu'on peut découvrir énormément de choses, que ce soit, bah, comme tu l'as dit, pour aider la science, la médecine, etc.
Même pour la transition écologique, en soi, on souffre aujourd'hui, on est en pleine crise climatique. Et donc, pourquoi pas explorer des ressources énergétiques, justement, qui viennent de l'espace pour essayer de y remédier.
Après, j'aurais tendance à dire que ce genre de fonctionnement, ça va inciter à utiliser à fond nos ressources à nous, celles qu'on a déjà, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est pas grave, il y a de l'eau sur Mars, sur la Lune ou quoi que ce soit. Et je pense qu'on peut facilement tomber dans un problème de, ben, un espèce de biais de, au pire, il y a toujours Mars, on peut toujours y vivre, on peut toujours récupérer ces ressources-là, et que c'est pas une raison pour mal utiliser nos ressources actuelles, et que vraiment, l'important, c'est clairement préserver la Terre et pas de s'intéresser à d'autres choses. Mais bien sûr que, c'est toujours hyper intéressant comme domaine de savoir ce qui se passe dans le monde, même pour la compréhension de l'univers simplement. Enfin, être curieux de comment fonctionne notre univers et pourquoi on est arrivé là, évidemment que c'est important, mais il faut faire attention aux dérives.
Après, vu le contexte géopolitique actuel, je crois que ça reste un domaine sur lequel les grandes puissances mondiales se focalisent de plus en plus. Notamment sur le fait que, en fait, c'est un domaine qui est très, très difficile à étudier, très, très difficile à explorer, à innover, à développer. Et donc, en fait, il y a une certaine course
à la puissance, à montrer qu'on est capable de le faire, etc.
Ouais.
C'est un peu, quand on regarde l'histoire, c'était un peu
oui,
le cas.
Oui,
notamment. Et ça fait totalement lien avec les autres questions qui me restent.
Allons-y.
Donc, est-ce que pour vous, l'exploration de Mars est-elle une priorité ?
Donc non, toujours pas.
Bah, ça rejoint la question d'avant, oui.
Réponse sera la même pour moi.
Et le tourisme spatial vous tente-t-il ?
Honnêtement, je pense que ce serait assez amusant de voir l'espace très particulier, parce que tu vois la Terre de loin. Mais ça reste un trajet qui est très long, qui peut être assez effrayant parce que tu es dans une toute petite. Après, je sais pas comment ça peut devenir. Les fusées, ça, un jour, sera super grand et tout, je ne sais pas. Mais ça reste un espace qui est restreint. Peut-être des gens que tu connais pas tant que ça. Et déjà que l'avion, bon, bah, ça ne passionne pas non plus tant que ça. Mais je pense quand même que ça doit être fou de voir l'espace, de voir d'autres planètes et de voir la Terre.
Ah oui, pour ça, oui. Après, ça, moi, j'ai toujours l'image du tourisme qui va être coûteux et polluant.
Exactement, ouais, coûteux et polluant et avec un coût du coup, très, très important pour nous. Quoi. Enfin, je ne crois pas que ça coûterait le billet d'un avion. Je ne crois pas que ça coûterait un Paris-New York, j'ai envie de dire.
Effectivement.
Donc, est-ce que. Actuellement, je ne crois pas qu'on aurait les moyens, mais dans quelques décennies, peut-être si ça se développe.
Je pense que c'est normal que ça se développe parce que c'est évident que des gens, des entreprises vont vouloir miser là-dessus. C'est-à-dire que ben, ça reste un tourisme et que quand tu veux vendre des choses, tu vas finir par pouvoir vendre des voitures comme ça. Enfin, évidemment que les gens vont vouloir miser là-dessus et en faire du profit. Mais c'est clair que ça va être forcément réservé à l'élite pour un très grand temps. Je ne sais même pas si ça se démocratisera un jour.
Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent et ils sont chez beaucoup. Il y a SpaceX, Blue Origin, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, mais bon, ils y songent. Après, quand est-ce que ça va commencer à se développer, je ne sais pas du tout.
Oui. Après, j'ai envie de dire que actuellement, tout ce qui rapporte de l'argent serait bon à prendre.
Oui, ça c'est sûr.
Donc, est-ce que nous, ça nous tenterait, pour ma part,
pas tant que ça.
Pas tant que ça, surtout actuellement, pas tant que ça.
On a plein de choses à voir sur Terre.
Exactement, on a déjà plein de choses à découvrir sur Terre.
C'est moins cher.
Voilà. Et ça peut être moins polluant, surtout, donc on en profite.
Oui, bien sûr. Le train, c'est cool.
Croyez-vous que l'espace apportera des avancées scientifiques majeures d'ailleurs ?
Oui, absolument. C'est toujours comme ça en général, enfin toujours comme ça, j'exagère un petit peu, mais en général, quand tu fais la recherche dans un domaine particulier, ça t'apporte souvent beaucoup de choses, même dans d'autres domaines. C'est le concept de la recherche scientifique, c'est que tu te renseignes dans des choses qui vont être utilisables en physique, en SVT ou en mathématiques, c'est la base quoi. Mais donc oui, je pense que comprendre d'autres planètes, pouvoir clairement expliquer comment notre planète à nous fonctionne, parce que ça reste un même univers, et donc ça suit des lois qui peuvent être plus ou moins proches.
Mais en effet, en fait, je trouve que l'exploration, bon, je pense qu'il faudra dissocier déjà, on en parlera un peu plus tard, je crois, exploration spatiale et conquête spatiale, parce que je trouve que l'exploration spatiale, c'est une sorte de réponse à une quête de connaissance. Parce que de nos jours, on se pose beaucoup de questions, d'où vient la vie, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que l'infini, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars, pourrions-nous vivre sur Mars? Et donc en fait, on est en train d'assister à une certaine... une certaine renaissance de l'ambition de cette rupture-là, du progrès pour l'avenir de l'humanité surtout. Et donc voilà, les gens sont de plus en plus curieux.
Oui.
Donc oui, est-ce que ça apporterait des avancées majeures? Absolument, ouais.
Je pense que c'est tellement grand qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir.
Ah bah oui, tout ça, oui.
C'est quand même dingue.
C'est vrai, c'est évident. Pour sur quelques questions, je voudrais un peu parler, faire ma petite promo, de la question que la première question que tu m'as posée, c'était, si je me rappelle bien, par rapport à mes engagements associatifs.
Oui, si tu participais à des clubs ou des associations qui étaient liées à l'espace.
Et bien, du coup, je participe à Orion, qui est donc l'association UTCN, qui était morte et qu'on est en train de faire... faire reprendre et qui sera complètement actif au semestre prochain. Moi, je suis responsable communication et prévu dans ces missions d'interviewer la présidente de l'association, Mathilde Viltard. Donc, si vous êtes intéressé, restez.
Très bon teaser, restez jusqu'au bout.
Oui, voilà, elle est avec nous.
Petite dernière question, est-ce que l'exploration robotique devrait-elle remplacer les missions habitées?
Oula, alors, remplacer définitivement, non, absolument pas. Parce que je trouve que dans un premier temps, il est important d'envoyer des robots, on va dire, sur Mars pour qu'ils puissent découvrir...
Oui, récolter des données.
Récolter des données, etc. Et donc en fait, ça, c'est un peu une manière de refléter ce qui se passe ailleurs pour l'être humain qui est ici sur Terre. Et par la suite, si les conditions sont favorables, envoyer des humains. Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais remplacer les conditions physiologiques d'un être humain. Oui, un robot ne pourra pas vivre de la même manière qu'un humain sur Mars. Donc très très important d'envoyer des humains, des astronautes qualifiés pour justement essayer de découvrir, d'explorer et de creuser certaines thématiques.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les robots et les humains vont avoir des missions différentes par rapport au spatial. Par exemple, on ne pourra jamais, comme tu disais, la récolte de données, et même si on veut chercher encore plus loin, ça va être hyper important d'avoir des bons satellites et des belles sondes et même des petits robots qui... Hop. pour avoir des belles images et des données intéressantes. Mais par contre, on ne peut pas non plus garder que ça, parce que, par exemple, si on veut un jour aller sur Mars, ou vivre sur Mars, bah, il faut forcément qu'il y ait le moment où il y ait des hommes, des êtres humains.
Oui, il faut avoir vraiment un avis objectif, bah oui, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais
complètement, il faut voir si c'est réellement possible. Et on ne peut pas se limiter aux machines pour appréhender la vie sur Mars, appréhender même l'espace. Et puis ça reste quelque chose de tellement fort de voir un humain aller dans l'espace que j'ai peur que ça s'arrête personnellement.
Oui, et puis même voir des humains dans l'espace, je ne sais pas, ça peut inciter les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la science, des trucs comme ça. Donc ça peut être sympa. Eh bien, merci pour vos réponses.
Merci à toi, Coralie.
Très intéressant. Et maintenant, ce n'est pas à vous qu'on est allé poser de questions.
Ok.
C'est aux UTCiens. Nous sommes allés les rencontrer. Puis voilà, on a essayé de tourner la chose un peu de façon humoristique pour essayer d'avoir leur propre avis sur l'exploration de Mars et la vie sur Mars.
Bonjour, comment imaginez-vous la vie sur Mars ?
Je l'imagine très ennuyante et très seule.
Si vous deviez prendre un seul objet sur Mars, ce serait lequel ?
Du coup, j'en prendrais trois. Je prendrais ma tablette parce que je pense que je pourrais regarder plein de films pour m'occuper. Des livres, pour la même raison. Et enfin, la nourriture, parce que bah, je pense que c'est un bien-être premier.
Bonjour, alors j'ai deux questions à te poser. Serais-tu prête à quitter la Terre pour vivre sur Mars ?
Alors non, pas du tout. Moi j'aime bien la civilisation sur la Terre et le fait qu'on a déjà bâti une société qui fonctionne plutôt bien. Alors en créer une autre sur Mars, je pense que ça va être compliqué, ça va prendre très longtemps.
Comment imaginez-vous la vie sur Mars ?
Je pense que la vie sur Mars serait quand même assez différente que la vie ici parce qu'il n'y a pas une source d'oxygène concrète et du coup on vivrait plus dans une petite bulle au lieu d'une grosse ville.
Si vous deviez prendre un seul objet sur Mars, ce serait lequel ?
Je ramènerais un bol de chipotle parce que je pense que ça me manquerait sur Mars quand même.
Seriez-vous prêt à quitter la Terre pour aller survivre sur Mars ?
Non, j'y vois pas vraiment l'intérêt.
Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu quittais la Terre ?
Peut-être la forêt, parce que c'est la ressource la plus rare de l'univers.
Seriez-vous prêt à quitter la Terre pour aller vivre sur Mars ?
Non, je pense pas.
Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu quittais la Terre ?
Je dirais ma famille.
Alors, première question, serais-tu prête à quitter la Terre pour aller vivre sur Mars ?
Oui, je serais prête. Par contre, il faut que ma meilleure amie vienne avec moi. Sinon, c'est pas possible.
Deuxième question, si tu devais prendre un seul objet avec toi sur Mars, ça serait lequel ?
J'aurais pris ma peluche. Je l'ai achetée avec ma mère au Brésil quand j'avais, je pense, 6 ans. Et donc, je dors avec elle tous les jours. Et donc, j'aurais continué à dormir avec elle en Mars.
Qu'est-ce qui vous manquerait le plus si vous quittiez la Terre ?
De l'eau ?
Ah, ok, oui. Si vous deviez prendre un seul objet pour aller sur Mars, ce serait lequel ?
Un seul objet pour aller sur Mars. Un couteau suisse.
Oh. Comment imaginerais-tu la vie sur Mars ?
Triste.
Et qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu avais à quitter la Terre ?
La Terre.
D'accord. C'est vrai que c'est marrant.
Seriez-vous prêt à quitter la Terre pour aller vivre sur Mars ?
Clairement non, parce que voilà, la verdure, les nuages, etc. me manquerait beaucoup trop.
Et si vous deviez prendre un seul objet sur Mars, ce serait lequel ?
Je dirais un appareil photo, parce qu'on a quand même des très très beaux points de vue dans l'espace, donc voilà, autant profiter de ça.
Alors, serais-tu prête à quitter la Terre pour aller vivre sur Mars ?
Non, je ne serais pas prête de quitter la Terre pour aller sur Mars, parce que déjà, je quitterais ma famille, mes amis, et je ne suis pas prête à quitter mon environnement.
Alors vous, seriez-vous prête à quitter la Terre pour aller sur Mars ?
Non. Ouais, non, moi non plus, j'aime trop la vie, l'oxygène, oui, l'eau, il avait raison, le mec a répondu l'eau, la forêt, c'est ouais, exceptionnel, la forêt, on a des arbres, je veux pas quitter les arbres.
Surtout, il y a quelqu'un qui avait répondu la verdure, franchement, avec du recul, je me dis que oui, franchement, ça nous manquerait terriblement quand même.
Enfin, une petite balade en forêt, c'est quand même magique.
Oui, même les bruits, genre les oui, bruits des oiseaux, tous les odeurs, tout me manquerait vraiment. Et toi ?
Moi, par curiosité, pourquoi pas ? Mais juste par curiosité,
rapidement.
Aller vivre sur Mars, je pense que c'est vraiment une étape à franchir. Et que
parce que vraiment, on sort tellement de notre zone de confort quand même. Enfin, on est seul. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on serait quand même enfermé dans une sorte de bulle parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, on serait contraint à respirer grâce à.
J'ai trop de choses à vivre sur Terre.
Ah oui, voilà, trop de choses à vivre. En plus, là-bas, on sera seul un peu.
Oui. Après, je pense qu'on serait pas. Si on vivait sur Mars, on serait pas tant seul que ça parce qu'il y aurait tout le monde qui partirait avec nous.
Après, oui, je pense que ça dépend du contexte. Si on te balance sur Mars, entre guillemets, tout seul, bon, là, non, j'accepterai pas. Après, s'il y a déjà un cadre qui est posé, s'il y a des infrastructures, s'il y a déjà une population...
Bah, t'aurais pas la solitude, mais t'aurais quand même pas l'eau qui crépite.
Enfin, c'est pas le même cadre. Hein.
Oui, ben non,
pas les mêmes repères du tout.
Non, mais quand même, on a fait face à des étudiants assez réticents, quand même, assez pessimistes.
Oui, mais c'est vrai.
Parce que beaucoup de gens le sont, parce que c'était assez aléatoire. Et soit peut-être que c'est... aussi le contexte UTC1 ou je ne sais pas quoi qui fait que tout le monde répondait plutôt dans ces eaux-là. Mais je pense qu'en général, personne n'a forcément envie de quitter le confort et la beauté qu'on a actuellement pour une terre désolée ou même respirer, c'est un défi. Si par exemple, il y a un problème, une vitre qui se casse ou je ne sais pas, un problème d'eau, etc.,
je prends l'exemple tout bête. Moi, c'était déjà difficile de m'installer de chez mes parents à Compiègne. Faire la transition, c'est pas facile.
Oui.
Alors, faire la transition de Compiègne à Mars, je pense que c'est une étape à franchir.
Oui, je suis assez d'accord. Bon. Déjà, on change tout.
Après, bon, on peut se dire que si on s'installerait là-bas, comme tu as dit, tout dépendrait du contexte. Donc, s'il y a déjà une vie, une société qui est déjà bâtie sur place et qui, voilà, ça nous permettrait en fait de pas trop nous choquer, nous surprendre une fois arrivés là-bas, ça fera pas un dépaysagement total. Mmh. Franchement,
quand même,
hein. Why not? Oui, en soi, j'avoue que la vie ne serait pas forcément la même, mais juste le fait d'avoir des interactions sociales, ça rattraperait un peu le manque.
Bien sûr. Mais je veux dire, à Compiègne, tu as quand même des interactions sociales, tu as quand même une vie qui est basée. Et pourtant, même pour moi aussi, c'était compliqué de partir de chez moi ici, alors que c'est à 6 heures de voiture, 3 heures de train, et que je peux rentrer chez moi quand j'ai envie quand même.
Oui.
Donc, de là à vivre sur une terre complètement différente, avec des. Je pense que le mode de vie est différent. Après, je ne sais pas. Il y aurait quand même des écoles, sûrement. Il y aurait quand même des marchés. Bon, après, c'est une question qui est très lointaine.
Ouais, oui, très, très vaste. Bah,
justement, moi, je pense que j'irai, en fait, peut-être quand je serai vieille. Ah. Parce que, je ne sais pas, pour moi, j'ai l'image de la retraite, être un peu dans une routine, etc. Peut-être que ça pourrait me permettre de casser cette routine-là et d'aller explorer.
Tu serais très seule si tu quittes ta famille, tes enfants, etc. Pour aller vivre.
Parce que déjà que sur Terre, on a le choix de, je sais pas, sortir se balader en forêt ou même se poser au bord de l'Oise si on a envie de manger un bout ou voir quelqu'un. Je crois pas qu'il y aurait l'Oise là-bas. Hein.
Je pense pas non plus.
Ce qui est marrant dans les réponses, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'il y avait des grandes différences entre, par exemple, les gens qui répondaient « Oui, mais je veux qu'il y ait une amie, ma mère, etc., ma famille », et d'autres qui répondaient « Un couteau suisse ». Enfin,
oui.
Ils avaient tous une manière assez différente d'appréhender
la question.
Oui, la question.
Soit c'était la survie, soit c'était le confort familial ou amical. C'était,
complètement. Parce que, par exemple, un doudou, si tu pars sur un truc isolé, ça va pas te sauver la vie profondément, mais émotionnellement, donc ça montre que, c'est un peu sociologique comme étude, mais ça montre, je trouve, que les gens, on veut soit voir le côté émotionnel, soit le côté survie, ils vont apprendre différemment le fait de partir complètement, être complètement coupé de leurs habitudes actuelles et de leur confort.
Après, qu'on le veuille ou non, on aura toujours besoin de liens sociaux, d'interactions sociales, etc. Donc, en fait, nos questions étaient assez vastes. C'était vraiment pour voir leur première approche de la vie sur Mars, de ce que c'est que la vie dans une autre planète, découvrir l'espace.
Moi, j'ai trouvé la réponse de l'appareil photo vraiment originale. Ouais. Et j'y avais pas du tout pensé, mais c'est une super idée.
Mais c'est vrai, mais par exemple, cet homme, s'il n'a qu'un appareil photo, il va mourir très vite. Il y a pas beaucoup de gens
qui ont mais il aura peut-être des trucs à transmettre, tu vois.
Ah, mais c'est sûr, c'est une très bonne idée. Et il a raison que tu quittes à vivre sur Mars, autant avoir des choses à montrer après. Mais je pense que moi, j'aurais répondu de l'eau.
C'est d'ailleurs la réponse du professeur qu'on a interviewé. Il a dit que ce qui lui manquerait le plus, ce serait de l'eau.
Et
c'est vrai.
Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, pour être honnête. Que ce soit à boire, à voir, la mer. Ça nous manquerait énormément. Et la verdure aussi. Même si on l'a déjà dit, mais la verdure quand même. Enfin, les paysages. Moi, ça me manquerait énormément. Pas vous?
J'ai peur de me lasser
du
désert. Enfin, du.
Ah ouais, moi aussi.
De les désétendus.
Ce qui est trop bien sur Terre, même en France déjà, c'est qu'on a une mixité de paysages qui est incroyable. Genre, tu peux même Enfin, si t'es fan de volcan, tu peux en voir. Si t'es fan de d'abysses, tu peux en voir. Si t'es fan de forêt, tu peux en voir. C'est génial. On est quand même la meilleure planète, cette latin. La galaxie entière, pourquoi je la quitterais?
Et quand même, en fait, il y a toujours des trucs à découvrir. Alors que je sais pas, je connais pas Marc, j'ai jamais été, mais je sais pas si il y aura des paysages comme sur la Terre. Je suppose que oui, parce que voilà, il y a des montagnes, etc. Mais sur Terre, il y a toujours des trucs à découvrir.
Après, la seule façon de découvrir, c'est d'y aller.
Ouais.
Sur ce, petite pause musicale, on met Rocketman par Elton John. And there's no one there to raise them. If you did. And all the science I don't understand. Just my job 5 days a week. A rocket man. A rocket man. And I think it's gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again.
Nous sommes toujours sur Radio Graphite 94.9 et vous écoutez les échos de l'innovation. Ce que vous venez d'entendre là, c'est une chanson qui est assez connue. Vous la connaissez, les filles?
Oui, bien sûr.
J'avais entendu, mais il y a très longtemps. Ça fait longtemps.
Ouais, et ben, en fait, c'est la chanson Rocketman d'Elton John, un chanteur très très connu quand même. Et en fait, c'est une chanson qui a été écrite par Bernie Taupin, qui décrit les sentiments d'un astronaute qui part en mission dans l'espace loin de sa famille. Et donc, en fait, elle s'inspire d'une nouvelle de Ray Bradbury. Je suis désolée si je le prononce mal.
C'est pas grave.
C'est l'homme de l'espace, du coup, Rocketman, ça se traduit par l'homme de l'espace qui est présenté dans le recueil L'homme illustré de 1951. Donc en fait, ça revient un peu à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, le fait d'être loin de sa famille, tout ça.
Envoyer des humains dans l'espace.
Ah oui. Exactement, ça revient à ça.
It's gonna be a long, long time. C'est ça, I think it's gonna be a long, long time, non?
Oui, ouais, voilà.
Oui, c'est ce qu'il dit.
Oui, exactement, exactement.
Famille lui manque.
En tout cas, chanson magnifique.
Oui.
Et transition pour notre nouvelle rubrique. Nous avons vu une vidéo sur la chaîne YouTube, donc CCI Charente-Maritime. Je traduis CCI, c'est l'anagramme de Chambre de Commerce et d'Industrie. Donc c'est une vidéo qui est assez courte, mais très intéressante, et qui traite de l'avenir de la conquête spatiale, donc que ce soit du tourisme de masse, de la colonisation de Mars ou encore de l'exploitation des ressources. Donc nous vous laissons avec ces 5 minutes très intéressantes, puis vous retrouvons après pour en discuter.
Il s'agit d'un extrait de la conférence « Quel avenir pour la conquête spatiale ?» par Jean-François Clairvoy.
Le 29 mars 2018, la CCI de La Rochelle et le groupe Subdeco invitaient Jean-François Clairvoy, astronaute, senior de l'Agence européenne spatiale et président de la société Novespace. Il a présenté son analyse sur l'avenir de la conquête spatiale devant une salle comble et très hétéroclite. Le tourisme spatial, la conquête de Mars, les ressources extraterrestres ou encore le parallèle entre l'agence spatiale et l'entreprise, autant de thématiques qui ont suscité l'intérêt et beaucoup de questions dans le public.
Alors, l'exploration spatiale, depuis le début, répond bien sûr à des enjeux géopolitiques. Une puissance industrielle veut montrer qu'elle est très forte, qu'elle fait des choses très difficiles. Et l'astronautique, c'est une des disciplines sur le plan industriel les plus difficiles à maîtriser, notamment la science des fusées, comme on l'appelle. Mais fabriquer une sonde interplanétaire qui part à des milliards de kilomètres avec des températures de moins de 100 à plus de 100 degrés, qui fonctionne en continu, avec laquelle on converse, c'est très difficile à mettre au point. Surtout qu'on ne peut pas le ramener au garage pour réparer s'il y a une panne. Donc il faut un service qualité top. D'ailleurs, dans les organisations du spatial, vous avez une direction de la qualité à titre égal de la direction technique, de la direction financière, etc. Donc l'exploration répondra toujours à la quête de la connaissance. Comment s'est formé le système solaire? Comment s'est formé l'univers? Pourquoi sommes-nous là? Comment le vivant est apparu? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Voilà les questions auxquelles on cherche à répondre avec des sondes pour ce qui est du système solaire, donc qui est accessible en quelques années, ou qu'on explore avec des télescopes spatiaux qui, eux, ne se déplacent pas mais voient très loin pour observer d'autres galaxies ou des planètes autour d'autres étoiles. C'est une quête de connaissance qui répond aux besoins de la science, peut-être à des questions philosophiques, d'où venons-nous, et probablement qui nous aide indirectement à être plus sage, parce que ça aide à inspirer les jeunes générations à vouloir accéder aux sciences. Et quand on a envie d'être scientifique, en général, on est moins tenté de s'orienter vers des activités qui peuvent un jour conduire à la guerre, par exemple. La meilleure estimation du calendrier des voyages martiens, dans les années 30, les premiers humains iront vers Mars, tourneront autour de Mars et reviendront, une mission typiquement de 2 ans et demi, en restant en orbite, peut-être en se posant sur Phobos, mais c'est comme être en apesanteur, le corps est trop petit pour avoir une gravité importante, et peut-être dans les années 40, se poser sur Mars et y rester un certain temps avant de revenir. Se poser sur Mars, c'est très difficile, c'est pour ça que ce sera dans un deuxième temps. Il faudra qu'on se soit démontré à l'avance qu'en mode automatique, on peut se poser, on peut redécoller et ramener des échantillons. Lorsqu'on aura réussi une mission vers Mars, sur Mars et retour avec des échantillons, tout en mode automatique, on pourra se lancer avec des humains. Plusieurs organisations se posent la question aujourd'hui du business potentiel de l'exploitation de ressources extraterrestres. Quand on parle d'exploitation de ressources extraterrestres, dans un premier temps, c'est pour rendre service à des missions spatiales qui, au lieu d'emmener tout leur carburant ou toute leur eau ou tout leur hydrogène depuis la Terre, ils le prendront au passage. Donc en s'arrêtant à proximité d'un endroit où il y a de l'eau qu'on peut dissocier en hydrogène, oxygène. Dans un deuxième temps, ce sera peut-être de ramener sur Terre des matériaux qui seront plus intéressants à aller chercher sur des astéroïdes que les chercher sur Terre parce qu'ils sont devenus trop rares ou tellement difficiles à exploiter que c'est inacceptable sur le plan environnemental ou financier.
Moi, j'ai bien aimé le conférencier parce qu'il a su apporter des touches très concrètes de son expérience d'astronaute et il s'est écarté de l'aspect scientifique qu'on pouvait redouter quand on ne connaît pas du tout le domaine.
Alors, il est toujours très bon. Je l'ai connu dans une vie antérieure. Je l'avais dans mes équipes et il était déjà très bon et il est resté très bon en communication et en simplification des problèmes de l'espace pour le grand public.
J'ai trouvé effectivement que c'était quelqu'un qui était très intéressant, en tout cas une approche assez globale, assez pertinente et qui m'a permis en tout cas moi d'avoir une vision un peu différente peut-être de l'espace. Jusqu'à maintenant je me posais la question pourquoi on envoyait des navettes dans l'espace, là j'ai une vision un peu plus précise maintenant aujourd'hui.
Et ce que j'ai apprécié, c'est l'aspect troisième dimension, parce que c'est vrai qu'à notre échelle, on ne se rend pas bien compte, mais là, ça nous donne une ouverture d'esprit qui est considérable.
Donc effectivement, très intéressante cette vidéo. Et en fait, cet astronaute, il est un peu en train de... Comment dire, d'être d'accord avec le fait qu'il faut un peu accélérer la conquête spatiale pour l'avenir de la Terre, qu'il faut aussi retrouver un peu cette ambition... voilà, de progrès pour l'avenir de l'humanité en allant chercher au-delà de notre atmosphère. Donc, moi, je me posais la question, et je vais vous poser la question suivante aussi, c'est quel sens ça a, 60 ans après les débuts de la conquête spatiale, d'aller sur la Lune aujourd'hui, en 2024?
Alors, pour ma part, je pense que l'avenir de la Terre, en fait, pour l'avenir de la Terre, le spatial, il est fondamental. Enfin, que ce soit pour l'observation et la communication, comme on l'a vu avec les conflits géopolitiques actuels, avec la guerre en Ukraine, on a aussi découvert que l'espace était en quelque sorte une manière ingénieuse, pour l'homme d'apprendre à consommer. À consommer et à produire de manière très, très intelligente. Par exemple, on peut évoquer le cas de l'exemple de la transition écologique. Enfin, par exemple, pour sortir de ce dilemme infernal qui est-ce qu'on doit continuer notre mode de vie actuel qui mène à la catastrophe climatique et des perspectives sinistres pour notre planète, ou plutôt essayer de réinventer des manières de consommer et de produire de l'énergie. Et donc voilà, c'est un peu une sorte de réponse à, comme on l'a dit,
moi, les connaissances que l'on avait. J'ai un peu de mal avec le fait, par exemple, ce qu'il disait dans la vidéo, dans l'audio, d'aller chercher des ressources sur les astéroïdes qui seraient plus intéressantes parce que plus faciles à extraire et moins polluantes et peut-être plus intéressantes que celles qu'il y a sur Terre. Donc si elles ont des propriétés mécaniques qui sont différentes que celles qu'on a nous, peut-être que c'est intéressant, mais j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait être moins polluant.
Oui, tout à fait. J'allais revenir là-dessus aussi. Et puis, il parlait de les extraire sur les astéroïdes et de les ramener en France. Mm-hmm. Enfin, pas en France, pardon, sur Terre, de manière générale. Et comme toi, j'ai du mal à m'imaginer ça.
J'ai un exemple concret. En faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'en 2020, la NASA a ramené un échantillon d'astéroïdes. Et donc, en fait, ça va un peu répondre, vous allez voir, à l'impasse dans laquelle on se trouve, qui est le fait qu'on dépende principalement du gaz et du pétrole russe, dans un contexte très, très tendu. C'est pas vraiment la solution. Et cette dépendance-là, en fait, pour répondre à cette dépendance-là, on a en quelque sorte une idée, pour le futur énergétique d'ailleurs, qui dit que les réacteurs nucléaires classiques, soit les EPR, ne sont pas la réponse à tout. Enfin, il y a un élément qui est quasi absent sur Terre et qui est présent sur la Lune, qui est l'hélium 3. Je crois au total, il y a environ 15 tonnes sur Terre. C'est vraiment pas assez contre 100 000 tonnes sur la Lune quand même, dans l'atmosphère sud de la Lune. Et donc en fait, il produit des quantités exceptionnelles d'énergie lors de sa fusion. Et il faut savoir que sa fusion ne produit quasiment aucun déchet énergétique et nucléaire, ce qui est assez exceptionnel. Enfin, on doit le souligner. Et donc en fait, 100 tonnes de ce minerai produiraient l'équivalent des trois quarts, voire une bonne partie de la demande mondiale. Pour faire simple, il y a 1000 ans d'énergie avec la quantité d'hélium-3 qu'on a sur la Lune. Okay. Donc voilà, ça vient répondre à la demande mondiale dans un premier temps, et ça vient aussi répondre à la question comment transiter de manière écologique dans un domaine qui est très très complexe de nos jours et sur lequel il y a beaucoup de recherches, qui est l'énergie.
Ok.
C'est un exemple tout bête.
Est-ce que le coût, que ce soit économique ou en termes de ressources, pour aller sur la Lune, récolter toutes ces ressources-là et après revenir sur Terre, ça vaut vraiment le coup?
Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, il y a beaucoup d'études à mener là-dessus, il y a beaucoup de... Il reste des pistes à explorer, des choses à découvrir, donc oui. Mais en tout cas, c'est assez prometteur.
Je pense qu'effectivement, si on, par exemple, les fusées qui permettent d'aller sur la Lune sont réutilisables, parce que là, pour l'instant, une fusée, elle est sur la Lune, et elle se décompose au fur et à mesure, elle se détruit, en fait, et on ne pourra jamais la réutiliser après. Ce qui fait que la construction d'une fusée, c'est quand même un coût énorme, une demande de matériaux qui est énorme, et donc, ça ne peut pas du tout être rentable, et même, c'est sûrement polluant, je ne sais pas de quelle manière, mais on va sûrement découvrir un jour que, déjà, soit les déchets spatiaux, parce qu'on a plein de satellites qui sont déjà dans l'espace et qui ne servent plus à rien, et qui juste... sont des déchets, mais effectivement peut-être que si on a des moyens maintenant de réutiliser plusieurs fois une fusée et d'aller assez vite sur la Lune, parce que c'est quand même un trajet qui est assez long, donc je sais pas si réellement ça peut être intéressant, et comment est-ce qu'on récupère ce matériau qui était très prometteur, mais comment est-ce qu'après on le transforme en énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire, mais qu'effectivement, ce que tu dis me change un peu la donne, et que ça peut changer les choses. Ouais. Et après, il y a aussi le fait que, certes, on va plus dépendre de la Russie qui, elle, a les ressources, mais il y aura quand même sûrement des grandes inégalités qui vont se créer entre ceux qui ont
les capacités d'aller chercher des trucs sur la Lune et celles qui ne l'ont pas. Parce qu'entre différents pays, niveau développement, etc., tous les pays ne vont pas du tout se permettre d'avoir le matériel nécessaire pour aller chercher des minéraux sur la Lune.
En effet. Mais là, on est principalement en train de parler de la transition écologique et des ressources énergétiques, etc. Mais est-ce que vous savez, les filles, qu'il y a beaucoup d'inventions de nos jours qui ont été développées dans les années 60, bah, du coup, qui ont permis à Apollo 11 de permettre du coup, à Neil Armstrong de poser un premier pied sur la Lune, des technologies qu'on utilise de nos jours, vous le saviez ou pas ?
Non.
Du style les casques sans fil. Les casques sans fil ont été développés par la NASA dans les années 60 pour permettre justement à une communication, même si pas très fluide, qui a été développée par la suite. Il y a aussi les semelles anti-choc, les IRM, pareil.
Oui. Cette technologie
a été rendue possible par la NASA dans les années 60. Un autre exemple, l'agriculture verticale, j'avais perdu le mot, mais l'agriculture verticale a été rendue aussi par la NASA aussi dans les années 60. Et donc tous ces progrès-là, en fait, qui ont été réalisés au dernier siècle, ont permis en quelque sorte de nouvelles innovations qui nous servent aujourd'hui de nos jours. Donc vous voyez, ça ne sert pas totalement et que pour aller dans l'espace, mais de nos jours aussi ça sert. Et donc ça rejoint un peu, j'avais entendu ça en faisant mes recherches, mais un discours qui a été prononcé par Kennedy dans les années 60. C'est un discours super intéressant d'ailleurs que je vous encourage à aller écouter. Il a été prononcé dans l'université Rice au Texas, qui dit que les US avaient choisi d'aller sur la Lune et de revenir dans la même décennie, pas parce que c'est très difficile, parce que ce serait un défi qui servirait à organiser et à mesurer la meilleure de nos énergies et de nos compétences. Donc à l'époque, il n'y avait pas de fuseaux, il n'y avait pas de module lunaire, mais quand même 7 ans après le discours prononcé par Kennedy, Apollo 11 permettait à Neil Armstrong de poser un pied sur la Lune. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte.
Ouais, mais c'est génial et ça ne me surprend pas tant que ça, parce que c'est complètement logique, comme je disais tout à l'heure, que les recherches qu'on effectue pour un truc aussi ambitieux qu'aller sur la Lune soient utiles dans plein de domaines après bien plus civils. Je savais que pour les enfants de la Lune, ceux qui supportent pas le soleil et qui doivent rester chez eux, les casques d'astronautes, en fait, leur permettait à eux, vu que du coup ça protège des je ne sais quels rayons qui sont dangereux pour la peau sur la Lune, et bien ils pouvaient être utilisés aussi pour ces personnes-là, à protéger du soleil tout simplement. Donc c'est complètement cohérent. Et ça, je ne remets pas du tout en question le fait qu'on ait des avancées hyper importantes et hyper intéressantes grâce à pas la conquête spatiale, mais à la recherche spatiale. Mais après, je reste quand même assez dubitative du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller chercher ailleurs.
Oui.
Après, ce monsieur va le défendre assez fort et il est sûrement bien plus renseigné que je ne le suis, bien plus compétent dans ce qu'il fait. Et ça peut être quelque chose de prometteur.
Vous parlez d'innovation, justement, je reviens là-dessus, mais je pense que les innovations qui sont faites pour le spatial et pour l'exploration spatiale, que ce soit les fusées ou la vie dans l'ISS, par exemple, peuvent aussi également être utilisées sur Terre. Bah, je vous cite, par exemple, il y a des systèmes de recyclage de l'eau.
Mm-hmm.
Donc, il y a le système de contrôle donc, environnemental et de support de vie de la NASA sur l'ISS qui va recycler jusqu'à 93% de l'eau utilisée. Donc, ça inclut les urines, la sueur, la respiration, même les condensations qui peuvent provenir des activités quotidiennes. Le système va traiter ces ressources pour produire de l'eau potable propre. Donc, pourquoi pas utiliser ce genre de technologie plus tard pour nous, pour éviter de polluer encore plus. Il y a des systèmes de recyclage de l'air, de la gestion des déchets, avec un système de toilettes qui utilise une combinaison de flux d'air et de pompes qui vont collecter donc, les déchets solides et liquides, qui vont, en tout cas pour les urines, être parfois traités et recyclés en eau potable.
Ça, c'est génial. Et c'est vrai que j'ai peut-être complètement sous-estimé, avant de faire mes recherches et avant de faire cette mission avec vous, à quel point ça peut être important pour l'écologie, c'est vrai, en fait. Parce que, par exemple, le cycle de l'eau, c'est quand même une ressource qui est hyper importante et qui est assez précieuse. Et on a un gros problème par rapport à ça actuellement, parce que certes, on a beaucoup d'eau salée, mais de l'eau douce, ça commence à devenir compliqué dans beaucoup d'endroits sur cette Terre. Donc ça, c'est vrai que en fait, ça peut être super important et super intéressant. Et même que c'est autant dans les recherches spatiales qu'il faudrait qu'on investisse que dans l'écologie. Après, on pourrait aussi investir
par exemple, dans l'écologie directement. C'est-à-dire que plutôt que chercher à faire des choses dans l'aérospatiale qui, au final, a des débouchés hyper importants et des retombées hyper intéressantes pour le civil, on pourrait aussi faire des recherches directement pour des créations plus écologiques. Pareil, je sais que l'armée, il développe des technologies qui sont incroyables et qui pourraient être hyper intéressantes pour nous, mais qui sont plus ou moins accessibles. Si cet investissement, on le faisait directement pour l'agriculture, pour les bâtiments et pour l'énergie, on irait aussi vite. Mais c'est quelque chose de compétition et que les gens sont beaucoup plus payés, en tout cas, vont beaucoup plus facilement investir quand c'est pour aller conquérir une autre planète et que juste pour aider son pays.
Et donc, en fait, voilà, ça détruit un peu le cliché de en mode on part dans l'espace pour totalement y vivre, alors que non, il y a plusieurs secteurs qui chevauchent en fait avec l'exploration spatiale, toutes les innovations qui sont mises en place. Et donc, voilà, c'est un secteur à ne pas négliger. Il faut vraiment casser cette image-là d'aller dans l'espace pour y vivre seulement.
Oui, après, je pense qu'on a cette image-là parce qu'il y a aussi des gens qui la nourrissent.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Par exemple, Elon Musk, je pense que c'est aussi beaucoup pour le business qu'il y a derrière, pour la publicité qu'il peut s'en faire, etc. Et que c'est peut-être pas tant pour le développement utile à l'écologie et utile à l'industrie qui va faire ça, mais simplement pour avoir des belles images, un bon réseau, etc., etc.
Et bien, sur ces bonnes paroles, nous vous laissons sur une deuxième interlude musicale, donc la musique qui s'appelle Cosmic Girl par Jamiroquai.
Bonjour, vous êtes bien sur Les Échos d'Innovation sur Radio Graphite 94.9. Nous allons maintenant interviewer Mathilde Viltard. Tu es donc présidente de l'association Orion. Bonjour Mathilde.
Bonjour, oui c'est ça, je suis la presse, la nouvelle presse. Et je suis très très contente d'être là. Vos choix musicaux, je les adore. Les auditeurs, j'étais vraiment en train de danser dans le studio.
Ah ouais, c'est incroyable.
Mais ouais, voilà.
Donc nous avons quelques questions à te poser. D'abord, okay. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et ce qui t'a donné envie de cette passion pour l'espace et l'aéronautique ? L'aérospatiale, pas l'aéronautique.
mon parcours, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis en première année à l'UTC. Ce qui m'a donné vraiment cette passion pour l'astronomie, c'est principalement mon père et les films qui Interstellar et tout ça, qui sont absolument des films magnifiques. Et en fait, avec mon père, on a l'habitude de prendre le télescope, d'aller dans un champ dès qu'il fait beau et on peut passer une nuit blanche complète à regarder les étoiles. Il y a un moment, tu as vite fait le tour avec juste un télescope. Du coup, c'est là que j'ai commencé à me renseigner plus sur, sur plein de choses, les articles de la NASA, et voilà. Et d'où mon intérêt pour l'astronomie à l'UTC et Orion.
Je sais que tu as déjà fait quelques conférences, quelques planétariums, et que tu as même construit un télescope, tu peux quand même nous en parler.
Oui, c'est vrai. Au lycée, en fait, j'ai eu la possibilité de travailler avec un astronome absolument génial qui m'a ouvert énormément de portes sur l'étude d'imagerie spatiale. Donc, on travaillait sur des images prises par Hubble à l'époque. On a construit un télescope avec un vieux bout de PVC, deux lentilles. Enfin, franchement, c'était du bricolage, mais ça fonctionnait très bien. Et il m'a appris à animer des séances de planétarium dans un petit planétarium gonflable, hyper sympa. Et je suis un peu en manque de cette période. Mais voilà.
As-tu un rêve, un objectif particulier lié à l'exploration spatiale que tu aimerais réaliser dans le futur ?
Ah ouais, bah ouais, le rêve ultime, moi je veux être astronaute.
Et ouais.
Je veux aller dans l'espace, là. Moi je veux bien aller vivre sur Mars. Même toute seule, je vous jure, j'y vais.
Même s'il y a plus l'eau, la Terre, les arbres, même si t'es seule, qu'il y a des tempêtes spatiales et...
Ouais, mais en fait, c'est pour vous dire à quel point ça me passionne, c'est qu'un jour, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit « Maman, un jour, si je pars dans l'espace, je pourrais mourir là-bas, je m'en fiche, j'aurais vécu ce que je voulais vivre.
Wow. » Elle a répondu « D'accord, incroyable. Ma fille. »
Non, elle m'a dit « Vraiment pas, tu rentres. » Oui, maman. Mais non, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me... Enfin, de pouvoir voir la Terre d'aussi loin, enfin, ça me fascine à un point peut-être même un peu trop obsessionnel, je pense.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'association Orion dont tu es présidente ?
Ouais, donc Orion, c'est une asso donc, qui existait déjà avant. Malheureusement, elle a pas été reprise les derniers semestres. Donc moi, je suis arrivée à l'UTC en septembre dernier. Je me suis dit, bah mince, il n'y a rien sur l'astronomie. Pourtant, j'avais entendu parler de quelque chose. Et du coup, je me suis renseignée comment je pouvais la reprendre. J'ai monté toute une équipe.
Donc la RESPECOM.
Ouais, Lise et la RESPECOM. On a Morgane, le vice-pres. Puis on a tout un bureau. On a environ une dizaine de membres. Voilà, et on cherche toujours du monde. Si ça vous intéresse, venez, il n'y a pas de problème. Et donc, on a prévu tout plein de choses. Des observations. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre, Lise ? J'ai un trou, là.
Alors, donc, déjà, vous pourrez, comme elle le disait, voir les étoiles au bord de l'Oise. On aimerait aussi faire des séances de planétarium, avec planétarium gonflable de ton ami astronome. On voudrait aller à Paris faire quelques expositions, peut-être même créer des conférences à l'UTC, mais ça peut être un peu compliqué parce que les conférenciers, il faut les payer. Et surtout, le plus gros projet qu'on aurait, peut-être en second semestre, ce serait de créer un télescope, nous aussi, puisque Mathilde a pu le faire en terminale. On juge qu'en tant qu'école d'ingénieur, ce serait honteux de ne pas réussir à faire un magnifique télescope fonctionnel.
Je te rejoins sur ça.
Surtout que les télescopes d'Orion sont vraiment géniaux, mais sont soit beaucoup trop gros, soit un peu trop vieux. Donc, un nouveau télescope, même fait main, on n'est pas contre.
Bon, en tout cas, vraiment superbe initiative d'avoir repris l'asso. On peut vous féliciter pour ça. Et comment cette association, elle compte contribuer un peu à la sensibilisation à l'aérospatiale auprès des étudiants, que ce soit à l'UTC ou dans les autres universités ?
Quotidiennement, on va dire, on a prévu des week posts, donc toutes les semaines, quelque chose, donc un post sur Instagram qui va expliquer un phénomène spatial, enfin de l'espace, par exemple les trous noirs. On en a déjà une qui veut faire quelque chose sur les Pléiades, je crois. Mm-hmm. Donc on vous explique qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et parfois même des anecdotes dessus, marrantes et intéressantes surtout. Le but c'est d'enrichir la culture astronomique. Et après, bien évidemment, sur nos sessions observation, le but, c'est de partager nos savoirs. On a des membres de l'asso qui sont venus là parce qu'ils étaient intéressés, mais qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'astronomie. Et même eux, on va apprendre tous ensemble comment ça fonctionne, l'espace, en fait, dans quel univers nous sommes.
Exactement.
Alors, à ton avis, quelles sont pour toi les prochaines grandes étapes à venir dans l'exploration spatiale ? As-tu une petite idée ?
De ce que j'ai lu là récemment, j'ai entendu parler du projet Artemis à la NASA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le but du retour sur la Lune. Et potentiellement, je crois qu'ils veulent monter une présence humaine sur la Lune, avoir une base là-bas. Et je trouve ça presque incroyable, mais c'est génialissime. Quoi.
Et pourquoi ce serait là ? Pourquoi ça s'est fait ? Et pourquoi ce serait génialissime de le faire ?
Bah, alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il en est, ce projet. Malheureusement, j'ai pas encore assez lu là-dessus. Mais ça pourrait permettre, je pense, d'avoir une base d'études en dehors de tout ce qui est pollution lumineuse, à mon avis. Et en plus, vu que la Lune a une gravité beaucoup plus faible que la Terre, si ça tombe, dans le meilleur des cas, ils pourront même envoyer des sondes et des fusées depuis la Lune. Mais bon, ça demanderait du coup d'avoir les matériaux sur place, donc avant de les faire venir depuis la Terre. Donc je ne suis pas sûre que ce soit ça leur projet, mais c'est quand même hyper intéressant.
Et du coup, pour rester dans les missions spatiales, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué ? Et si c'est le cas, pourquoi ?
Il y en a beaucoup, beaucoup. Rien que les Apollo à l'époque, bon, j'étais pas cornée, mais, mais j'ai eu les retours. Mais là, récemment, je crois que c'était en décembre 2021, il y a James Webb, donc un télescope qui est parti en orbite autour de la Terre. Et donc, James Webb, ce qui m'a marqué sur le moment, c'est que donc moi, j'étais en train de travailler sur des images de Hubble, qui est le grand frère de James Webb, mais qui est un peu vieux, quoi. Et donc, quand on a pu avoir les premières images, la comparaison... Il y a une image qui traîne beaucoup, que j'ai vue beaucoup, c'est la comparaison des piliers de la création prises par Hubble et prises par James Webb, et le niveau de détail. Et en fait, on ne voit pas dans les mêmes longueurs d'onde et tout, donc on voit des nouvelles choses grâce à lui. Et on a pu apprendre plein de nouvelles choses. C'est vraiment... Enfin, juste avec... Un nouvel outil en plus, y a eu pas mal de découvertes et je trouve ça vraiment beau.
Incroyable comment c'est un secteur en pleine expansion et dans la progression est exponentielle, si je me permets.
Les photos de James Webb sont trop belles.
En effet.
Ouais. Même si je n'y connais absolument rien, le fait de les regarder, voilà. Je trouve ça, ça magnifique.
Faut savoir que les photos en plus, ce que vous voyez, c'est pas ce qu'on voit réellement en fait. Elles sont travaillées par des scientifiques ou parfois des amateurs, des gens qui se disent « Tiens, cette couleur-là irait bien ici.
Oui. »
Et en fait, tout ce qu'on voit, c'est souvent la plupart du temps fictif parce que les niveaux de couleurs ne sont pas les mêmes que dans la réalité. Mais ça n'empêche que c'est quand même magnifique.
Oui.
Ah bah c'est une info à savoir. Je savais
oui,
pas.
Je ne savais pas.
Pour moi, c'était vraiment une représentation réelle et directe.
Comme quoi.
Voilà, comme quoi.
On a beaucoup à apprendre.
En effet. Donc, rejoignez Orion. Et du coup, juste, dernière question. Y a-t-il un message ou une pensée que tu aimerais partager avec notre audience, particulièrement avec ceux qui partagent la même passion que toi, l'astronomie ?
Eh bah, bien, vivez vos rêves, les gars. Rien n'est impossible. Regardez, moi, je suis une petite étudiante qui vient de Picardie et qui veut être astronaute. Et je vais y arriver. Donc, vivez vos rêves un max et donnez-vous les moyens. Et bah, rejoignez Orion parce que ça va franchement vous donner plein plein de moyens de rejoindre Orion.
Mais écoute, c'est super de t'avoir parmi nous. Franchement, c'est super inspirant de savoir qu'il y a des discussions comme ça parmi nous. Bah, rejoignez Orion, comme l'a dit Mathilde, ça lui fera plaisir et ça fera plaisir aussi à Lise.
Et pour vous surtout, c'est hyper important, comme elle le disait, c'est pour votre connaissance et pour votre savoir qu'il faut venir.
Et pour s'amuser.
Et pour s'amuser.
Et puis même si vous n'êtes pas à l'UTC, allez voir le compte Instagram au moins.
Ouais, les posts seront disponibles malgré tout.
C'est ça.
Ça va être enrichissant. Du coup, on te remercie, Mathilde. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, d'avoir accepté notre invitation.
Bah, merci à vous de m'avoir invitée, surtout.
Avec plaisir. Nous te souhaitons beaucoup, beaucoup de courage. Et à bientôt, peut-être, sur Graphite.
Peut-être à bientôt dans l'espace. Ah.
Certainement, certainement.
Donc, du coup, sur ces belles paroles de Mathilde, nous allons conclure notre émission qui arrive à leur fin. J'espère que l'atterrissage n'a pas été brutal pour vous. Si c'est le cas, nous nous excusons, les filles. Vous allez bien ? Les ceintures sont toujours attachées ?
Oui, ça va pour moi.
Toujours à bord ?
J'ai beaucoup appris avec cette émission, avec mes recherches. Et cette émission m'a fait prendre conscience qu'en fait, l'aérospatiale, c'est vraiment un domaine qui a beaucoup à apprendre. Et au niveau des recherches scientifiques et de l'avenir qu'il y a dedans, c'est pas aussi inutile que ce qu'on pourrait croire. Et c'est pas juste c'est certes quelque chose de passionnant et qui peut vraiment être particulièrement intéressant, mais c'est pas juste un jeu qu'on fait comme ça. Ça a réellement des retombées qui sont incroyables, même au niveau social ou écologique.
Bah, du coup... On a eu la chance d'avoir beaucoup d'avis, que ce soit par l'intermédiaire de Mathilde, les étudiants qu'on a interviewés. Et en fait, à travers cette émission, pour ma part, j'ai un peu déconstruit l'image que j'avais de base sur la conquête spatiale.
Ouais.
Dans le sens où, pour moi, avant la conquête spatiale, c'était forcément envoyer des astronautes sur la Lune ou sur Mars pour nous dire ce qu'il y a et pour nous donner plein d'infos et pour voilà, nous ramener des informations sur potentiellement une future vie là-bas. Mais en fait, on se rend compte avec tous les progrès qu'on est en train d'assister et toutes les avancées technologiques qu'on voit de nos jours, que plein de domaines se chevauchent et que l'exploration spatiale, en fait, a une énorme influence sur plein d'autres secteurs. Et donc, voilà, ça permet d'avoir une nouvelle image, n'est-ce pas, Coralie?
Oui, je vous rejoins vraiment totalement. Un peu comme toi, j'avais cette image-là un peu fermée de l'exploration spatiale et de la conquête spatiale, mais j'ai beaucoup appris, grâce à Mathilde, grâce à vous aussi.
Moi, ça se réalisait beaucoup au côté guerre froide, pays qui veulent juste conquérir la Lune pour la posséder. Et j'étais restée beaucoup sur cette image-là, très péjorative et qui n'est pas du tout réelle.
En fait, je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir, quoi.
Oui, je suis d'accord.
Et puis voilà, franchement, ça m'a aussi donné envie de rejoindre des associations.
Elle vient avec nous.
Type Orion, par exemple.
Sur ce, merci beaucoup. À une prochaine sur Gracite. Et écoutez-vous écouter.